Voilà donc pour le programme. Ravi de vous retrouver, Dominique, pour de nouvelles aventures. Nous sommes le 14 mai 2024 au péage d'Incarville. Un commando attaque un convoi et permet l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra. 9 mois plus tard, 22 février 2025, Amra est arrêté en Roumanie. Que s'est-il passé pendant l'intervalle, pendant ces 9 mois? Qui a permis l'évasion et la cavale d'Amra? Quels étaient ses projets, la galaxie Amra? C'est une enquête de Pierre-Louis Bousset pour Affaires Suivantes.
C'est dans une luxueuse villa du sud de l'Espagne que les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir. Leur cible, 7 hommes. Il se nomme Fernando D. Il est suspecté d'être l'un des 5 membres armés du commando mortel ayant conduit à l'évasion de Mohamed Amra le 24 mai 2024 au péage d'Incarville. À ce stade, 27 personnes ont été interpellées dans l'enquête autour de la fuite du trafiquant de drogue. Des membres d'un réseau dans lequel chacun aurait joué un rôle bien déterminé. Parmi les individus arrêtés, Jean-Charles P., 29 ans, incarcéré au moment de l'évasion, est mentor présumé de Mohamed Amra. Pendant la cavale, les deux hommes auraient beaucoup échangé, notamment au sujet du trafic de stupéfiants. Les autorités ont également interpellé 2 guetteurs présumés, 2 hommes de la même famille, qui se seraient installés sur une terrasse en face du tribunal judiciaire de Rouen le jour de l'évasion. Vêtus de noir et dissimulés par des capuches, ils auraient alerté les membres du commando du départ du convoi pénitentiaire. Il y a également les logisticiens, de nombreux individus âgés d'une 20aine à 30aine d'années, suspectés d'avoir volé des voitures impliquées dans l'évasion ou installé de fausses plaques d'immatriculation. Pour les enquêteurs, une partie d'entre eux aurait aussi joué un rôle dans d'autres tentatives d'évasion de Mohamed Amra.
Et pour en parler, nous accueillons ensemble Dominique, Maxime Brandstetter. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Journaliste police-justice BFM TV, vous avez enquêté évidemment sur ces 9 mois de cavale et vous avez des informations extrêmement intéressantes. Bonjour Joachim Pueyot.
Bonjour.
Ancien directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis, maire PS d'Alençon, c'est dans l'Orne. La galaxie Amra, Maxime, c'est le bon qualificatif, vous qui avez enquêté, qui avez écouté ce qu'avait dit la procureure de la République. On peut parler véritablement de galaxie pour expliquer à la fois l'évasion et la cavale?
Ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs reconnaissent que la plupart des personnes impliquées dans l'évasion, en tout cas impliquées dans le noyau dur, sont des proches d'Amra qu'il connaît depuis un certain temps. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, on a évoqué la Black Manjak Family, peut-être qu'on y reviendra, qui font partie de cette organisation qui serait une organisation criminelle. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est d'être des proches de Mohamed Amra. Après, il n'y a pas que ses proches, parce qu'on l'a dit, là, il y a 28 personnes mises en examen. Il y a aussi beaucoup de petites mains. Alors, la procureure de Paris refusait d'employer ce terme parce qu'elle disait ils sont tous autant responsables, donc je refuse le terme de petites mains. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont été recrutées de diverses manières, des réseaux sociaux, des téléphones portables que maîtrise extrêmement bien Mohamed Amra et qui ont participé. Et c'est ainsi que cette organisation a permis ce drame, cette évasion meurtrière.
On est dans l'affaire Amra avec cette Black Mafia de quartier.
La Black Manjak Family.
Dont le rôle restera à préciser. Pour l'instant, elle n'est pas forcément liée à l'évasion de Mohamed Amra.
Alors, il y en a eu d'autres. Il y a eu Redouane Faïd, mais c'était une histoire de famille. Il y a eu Yvan Colonna, c'était une histoire de Corse. Et puis, il y a une histoire aussi où ils sont très nombreux. C'est l'affaire Ilan Halimi avec Youssouf Fofana.
Le gang des
barbares. Encore une histoire de cité, gang de barbares. C'est la Pierre Plate à Bagneux. Et là, ils sont 26 ou 27 dans le box. C'est un peu le même réseau, c'est un peu des petites mains, des tout petits, des gens qui ont fait une petite bricole pour aider, qui ont apporté à manger, qui ont apporté des provisions. Et puis, il y a les plus importants. C'est un peu un réseau comme ça, Amra?
C'est un petit peu un réseau comme ça. En tout cas, c'est un réseau qui se connaît depuis longtemps, avec visiblement, au moins pour le noyau dur, ce qu'on pourrait définir comme étant le commando, comme c'est dit dans le sujet, des personnes qui sont prêtes à attaquer un convoi pénitentiaire, à ouvrir le feu, à tuer des personnes, donc risquer de passer le reste de leur vie en prison, 2 agents pénitentiaires, qui sont prêts à le faire pour Mohamed Amra. Alors, restera à savoir exactement pourquoi, parce que c'est des proches, donc sans doute, est-ce que c'est simplement par sympathie? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des intérêts derrière? On l'a dit, il y a Mohamed Amra, mais il y a aussi un certain Jean-Charles P. Que beaucoup disent, et il est le mentor de Mohamed Amra. Il est aussi aujourd'hui mis en examen dans cette affaire, placé à l'isolement. On se demande quel a été son rôle dans cette histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque des ficelles. Il reste à savoir comment il y a eu l'argent déjà pour financer cette cavale, et surtout, quel était exactement le but? Est-ce que c'est seulement parce qu'on voulait faire évader Mohamed Amra ou est-ce qu'il y avait d'autres projets? Il a aussi continué ses activités criminelles à l'extérieur. On parle
vous allez nous expliquer ça. De... Mais Joachim Puy, on va parler dans un instant d'Antonio Ferrara, que vous avez bien connu, le roi de la belle. Parce qu'en matière d'évasion, il a effectivement franchi un nouveau cap, comme ça a été le cas au péage d'Incarville. Mais est-ce que pour vous, on en parle souvent avec Dominique Riz, est-ce que ces gens-là, c'est le nouveau grand banditisme, ou ce qu'on appelle le grand banditisme Escamra aujourd'hui, c'est le Ferrara d'hier, selon vous. Est-ce qu'il y a des passerelles?
Oui, c'est les nouveaux banditismes. Il y a 20 ans, c'était plutôt les grands braqueurs, comme Ferrara, qui était un braqueur d'exception, en fin de compte. Hein. Il était
ce qui vient de retomber, d'ailleurs.
Il était spécialiste dans les explosifs, il braquait les fourgons qui transportaient des sommes considérables. Donc, c'était ça qui marquait le grand banditisme il y a une vingtaine d'années. Actuellement, c'est quasiment plus le cas. Ça l'est un petit peu. Quand même en marge, mais c'est plutôt les narcotrafiquants qui sont à la tête des réseaux criminels organisés. Et puis effectivement, on a pu remarquer, enfin moi j'ai pu remarquer que la haute délinquance souvent recrutée dans leur environnement dans lequel ils ont toujours vécu. Donc dans un quartier, Ferrara c'est la banlieue sud par exemple. Donc ensuite effectivement il y a des liens d'amitié, il y a surtout des liens financiers. Hein. Le chiffre d'affaires de la drogue en France c'est plus de 3 milliards, 3,5 milliards d'euros.
Estimé, c'est on
donc,
a du mal.
Donc avec 250 000 personnes qui dépendent de ce chiffre d'affaires. Donc, c'est considérable. Donc, effectivement, ensuite, eh bien, on organise un réseau. On sait que c'est très intéressant pour ceux qui sont à la tête des réseaux. Donc, oui, il faut faire la guerre aux narcotrafiquants. Ça me paraît indispensable. Et c'est pour ça que, pour ma part, le message du ministre de la Justice, il est important. Il fallait qu'il fasse ce message pour dire c'est vraiment un sujet important parce que même dans les villes moyennes, eh bien nous sommes confrontés effectivement au trafic de stupes avec peut-être des petits trafiquants, mais qui peuvent devenir au fil des mois des têtes de réseau.
Et le moteur, hein, comme on parle de Nino Ferrara, on parle de Redouane Faïd, on parle de Christophe Kider, le moteur c'était pas du tout la drogue. Ces gens-là ne touchez pas à la drogue, c'était l'argent, celui des fourgons, celui des banques, celui des braquages. Donc là, le mobile, c'est autre chose maintenant.
Oui, alors c'est sûrement aussi l'argent derrière, parce que peut-être qu'aujourd'hui...
C'est la façon de ne pas toucher à la drogue pour eux, en tout cas. Ceux-là.
Oui, c'est ça. Là, évidemment, il y a du trafic de stupéfiants dans Mohamed Amra, hein, on l'a dit.
Il voulait continuer ?
Il continuait pendant sa cavale, donc pendant qu'il était à différents plans, qu'il en a une à Compiègne, à Rouen au moins, et avant de partir en Roumanie. Il y a eu des échanges, alors il était très organisé, hein, avec des stratégies pour éviter de se faire repérer sur les messageries cryptées. Et grâce à ces stratégies, il continuait des échanges autour de la drogue. Il a notamment évoqué l'idée de reprendre un point de deal qui se trouve à Saint-Nazaire, qui appartenait à un des membres suspectés du commando qui est décédé. Il a discuté de projets pour faire importer de la cocaïne d'Amérique du Sud dans un des ports français. Il a essayé d'organiser des transports de drogue. Il a parlé avec d'autres organisations criminelles. On parle de la DZ Mafia, on parle de choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que pendant sa cavale, il était actif et visiblement, il voulait faire de l'argent. Est-ce que c'est pour la financer ou est-ce que c'est pour autre chose ?
Avant d'évoquer son évasion, sur sa cavale, est-ce qu'on en sait plus désormais sur ce qu'il a fait, comment il l'a fait, avec qui il l'a fait, à quel endroit il l'a fait ?
Sur la cavale précisément, on sait qu'après l'évasion d'Incarville, il va visiblement dans une première planque qui se trouve à Compiègne, dans une rue assez banale, une rue pavillonnaire assez banale. On ne sait pas s'il y a eu d'autres étapes. On connaît l'étape de Compiègne et l'évasion d'Incarville. Est-ce qu'il y a eu un passage de rebond ? Est-ce qu'il s'est caché ailleurs ? On ne sait pas. On sait au moins qu'il y a une deuxième planque à Rouen. Et on sait qu'après cette planque à Rouen, il y a ce départ en Roumanie qui date de début février, où en fait il est parti visiblement avec deux voitures jusqu'à la frontière allemande. C'est là que les enquêteurs le repèrent parce que, vous savez, ils observaient beaucoup de téléphones portables et ils envoient un qui est suspect, qui se déplace. Et il va traverser toute l'Europe jusqu'à la Roumanie. C'est là que les enquêteurs vont réussir à le repérer et l'interpeller. C'est ce qu'on sait grosso modo de sa cavale, mais il y a encore des questions qui se posent. Qui exactement l'a aidé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres rebonds ? Il y a eu à un moment donné la piste en Espagne. Les policiers français ont été en alerte parce qu'ils pensaient qu'il était dans une villa espagnole. Ils ne l'ont pas vu. Est-ce qu'il n'y était pas, qu'il est revenu ? Est-ce qu'il n'y a jamais été ? Ça reste à préciser, mais on sait, voilà, il a eu ce parcours-là et ce que je vous évoquais tout à l'heure, des activités criminelles qu'il a au moins continué d'essayer. Aujourd'hui, son nom, il est évoqué dans 3 affaires d'assassinat auxquelles il aurait participé, notamment pendant sa cavale.
Pour lesquelles il va rendre des comptes.
Le nom est évoqué, pas forcément soupçonné, mais c'est parce qu'il échangeait sur des techniques de règlement de comptes, des sortes de conseils en criminalité avec notamment des groupes, et c'est pour ça que son nom se retrouve dedans.
Quand on parle de l'évasion de Mohamed Amra, on a regardé avec Ronald et avec Marion Bordier qui nous aide en régie à préparer cette émission, et on se dit évasion, combien d'évasion ? Et là, Ronald trouve le chiffre.
On est à, alors 2021, c'est le Conseil de l'Europe qui donne le chiffre de 734 évasions par an en France.
Et donc, et nous, on se pose la question, et vous allez nous éclairer, vous allez nous éclairer, c'est qu'en fait, dans les évasions, il y a les non-réintégrations. Parce que quelqu'un qui sort en permission le vendredi soir, qui est en prison, qui est au bout de sa peine, qui sort le vendredi soir, qui doit rentrer à la prison le dimanche soir, par exemple, il a deux jours pour se réadapter, et c'est bien normal, à la vie à l'extérieur de la prison, s'il ne revient pas le dimanche soir, s'il ne réintègre pas la prison, c'est une évasion. Oui, donc, on a 734 évasions en une année.
Il y a très peu d'évasions d'une prison. Très peu.
Oui, mais c'est évasion, c'est le terme générique.
La France est un pays les plus sûrs pour les prisons françaises en termes d'évasion. Par contre, effectivement...
D'évasion brutale, alors. Il faut qu'on fasse le distinguo. Voilà, alors, vous les appelez comment,
comme,
ces évasions?
Comme Ferrara qui s'est évadé, par exemple, avec effectivement des moyens considérables.
On va vous proposer, on a recherché évidemment les images, l'évasion de la prison de Fresnes d'Antonio Ferra. C'est pas une évasion, c'est une attaque de prison. Mais je veux que vous nous racontiez, on va voir les images.
C'est une des premières fois qu'on voit une attaque de prison, mais Ferrara avait bien observé les points faibles de la prison de Fresnes. Et volontairement, il avait commis une infraction pour aller au quartier disciplinaire, parce que c'était l'endroit le plus faible qu'on avait déjà nous repéré, en tant que directeur et en tant que, moi j'étais inspecteur à l'époque, qu'on avait repéré. Donc il avait bien observé, et ensuite effectivement, avec un commando de 10 personnes, des brassards de police, lance-roquettes, FAMAS, on attaque un mirador à coups d'explosifs, et il a réussi à corrompre également un agent qui lui a fait parvenir des explosifs dans sa cellule. Vous vous rendez compte? C'est vraiment une organisation très pointue. Ferrara était vraiment très, très bien organisée.
M. Payot, vous dites, alors, on savait que sa cellule, alors, il était à l'isolement, à Fresnes, dans le quartier d'isolement, dans la cellule numéro 9, qui était celle qui était la plus proche de cette fameuse porte des livraisons par où ses copains sont venus chez, ou quelque chose comme ça.
C'est pas
vous
le quartier d'isolement.
Vous saviez ça, pourquoi?
Alors, moi, j'étais pas directeur quand, à l'époque.
Vous étiez inspecteur.
Oui, mais le quartier disciplinaire de Fresnes se trouve au bout de l'établissement. C'est pas le quartier d'isolement, mais donc c'est un
quartier isolé, mais pas l'isolement en fait.
Ouais. C'est un quartier disciplinaire, là où les détenus sont pieds nus. Mais on sait très bien qu'il y a une porte pour faire rentrer effectivement les camions, pour fournir les atouts, etc. Et là, effectivement, malgré que cette porte soit quand même observée par un mirador armé, c'est-à-dire que vous avez un agent armé dans un mirador. Mais donc, je crois que c'était un des points faibles. Depuis, on a dû renforcer, effectivement.
Ils ont tiré sur le mirador. Ils ont posé une charge creuse, la spécialité de Ferrara, sur la porte, ceux qui l'ont évadé. Et ils sont venus le chercher comme ça.
Mais on a eu des évasions spectaculaires avec des armes qui ont pu rentrer dans l'établissement pénitentiaire, avec des maisons centrales.
Kider à Moulin-Viseur.
Il a tenté, alors j'étais directeur à l'époque, il a tenté de s'évader. Il n'a pas réussi à s'évader parce que c'était un hélicoptère qui s'est pointé au-dessus d'une cour de promenade, mais il manquait peut-être 30 centimètres pour qu'il attrape l'échelle. Et donc ensuite, effectivement, ils ont lancé de l'hélicoptère dont le pilote avait été pris en otage, des armes. Et là, effectivement, Kider a pris en otage, avec son complice, trois agents. Et c'était le début d'une prise d'otage très longue qui s'est, malgré tout, bien terminée à la fin. Mais Kider avait également mis en place toute une organisation pour s'évader.
Parce que Kider n'est pas un abruti qui tire sur tout le monde,
non.
On va le dire.
Non, voilà. C'est quelqu'un qui n'a...
C'est important aussi de lui reconnaître
ça. Et Kider, comme certains détenus qui font partie du grand banditisme, ont souvent des bons comportements en prison.
Cette semaine, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a présenté les lieux dans lesquels seront incarcérés les 200 plus gros narcotrafiquants, notamment de France, Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais et Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Il y aura, c'est inspiré de la lutte anti-mafia en Italie, il y aura des grillages très resserrés, il y aura des salles de visioconférence, notamment parmi les mesures pour éviter les extractions. Parce que c'est ce qu'on a vu à Incarville le 14 mai 2024, l'extraction, c'est le point faible pour empêcher les malfaiteurs, les narcotrafiquants, les islamistes, ce que vous voulez, mais de s'évader. Ça reste le point faible?
C'est toujours des points délicats. Une extraction, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'évasions également à partir des hôpitaux. Lorsque le détenu sait qu'il a une consultation dans un hôpital, il peut organiser son évasion.
Les
extractions, c'est vraiment des points faibles. C'est pour ça qu'il faut bien évaluer la dangerosité du détenu et ensuite mettre en place une escorte. Il y a plusieurs niveaux d'escorte, mais pour les narcotrafiquants, pour effectivement ceux qui ont fait la une des journaux par rapport à leur crime, c'est l'escorte la plus importante, la plus sécurisante qu'il faut mettre en place, avec des agents bien sûr qui sont armés, soit avec des iris, ou soit effectivement des agents de la sécurité publique. Et là, dans le fait qu'on va transférer 100 détenus à Mandelvenin, puis ensuite à Condé-sur-Sarthe, bien les transferts sont toujours des moments très délicats. Il faut choisir le parcours, pas forcément un parcours classique, et puis bien évidemment mettre en place une escorte très pointue. Lorsque, par exemple, un exemple, lorsque Ferrara a été extrait dans les hôpitaux pour la cour d'assises, et je vous assure que en tant que directeur, avec la police, on avait vraiment travaillé pour que l'escorte soit inviolable. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Est-ce que si Ferrara s'évade pendant son transfert ou l'affaire Amra, le directeur de prison, il fait partie quand même des personnes qui vont se faire taper sur les doigts?
Normalement, il y a une inspection qui se déplace, on regarde effectivement les conséquences, et si effectivement il y a eu des défaillances dans la sécurité, effectivement il est responsable. Moi, quand j'avais, vous savez, à Fleury, vous aviez les détenus les plus dangereux de France, qui étaient en instance de passer dans les cours d'assises. Et donc on avait un bâtiment très très sécurisé. C'est le cas pour Ferrara, qu'on avait renforcé également. Mais il est bien évident que quand vous dirigez un établissement et que vous avez effectivement des détenus dont vous connaissez la dangerosité, il faut mettre tous les moyens à côté pour cette sécurité qui est indispensable.
Il y a eu une inspection, pour Mohamed Amra, qui avait conclu que finalement, sa dangerosité avait peut-être été mal évaluée à cause d'un manque de communication entre les services, à la fois les services de police, parce qu'il a d'autres affaires graves dans lesquelles il devra répondre, mais aussi des services de renseignement pénitentiaire qui avaient peut-être, faute d'échanger des informations, mal évalué, et l'escorte qu'il avait, c'était pas l'escorte la plus puissante qu'on pouvait déployer.
Et on cite leurs noms, Arnaud Garcia, Fabrice Moello, qui donc trouvé la mort assassiné au péage d'Incarville le 14 mai 2024. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes.